18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver ce soir. Vous le savez, en de ce début de semaine, quel plaisir aussi de vous accompagner tous les soirs de 18h à 19h30. C'est parti, vous le savez, au sommaire, eh bien, justement, ce qui vous attend aujourd'hui, plusieurs choses au programme. Alors, direction Clichy-sous-Bois. D'abord, nous allons nous intéresser, eh bien, à cette toute nouvelle maire, Samira Bou Taïbi, qui succède à Olivier Klein. 18h20, c'est Mamed Kaki qui viendra nous parler de sa pièce, toute nouvelle pièce, ici même en direct à 18h20. 18h30, c'est le Quad Neuf avec Maître Franck Serfati. Le débat, le de face à face avec les débatteurs influenceurs qui viendront confronter leur point de vue avec les sujets qui ont retenu notre attention. Le masque, retour, obligatoire ou pas. Nous allons nous attarder et vous décrypter l'actualité. Énergie renouvelable avec les lois qui doivent passer. Les Républicains, quel enjeu. Nous parlerons aussi, vous savez quoi, de l'Iran avec la police des mœurs qui est annulée. Abolition de la police des mœurs. Est-ce que ça change quelque chose? Ça, c'est ce qui vous attend durant ce programme jusqu'à 19h30. Eh bien, c'est parti. Vous le savez, Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et pour démarrer la semaine, toute l'interview du jour avec direction le Clichy-sous-Bois.
Les Informés. Les Informés. L'interview.
Et nous sommes, vous savez quoi? Après Olivier Klein, qui était le patron hein, de Clichy-sous-Bois, le maire qui s'est retrouvé aujourd'hui le ministre chargé de la ville, eh bien, nous sommes avec la toute nouvelle, fraîchement élue, qui est elle chargée donc du tout nouveau fauteuil. Elle s'appelle Samira Bou Taïbi, elle succède à Olivier Klein. Bonjour Madame la maire.
Bonjour Adil.
Bonjour, comment allez-vous? Comment vous vous sentez après cette... évidemment, vous succédez à Olivier Klein. Qu'est-ce qu'on ressent? Quelle émotion se dégage après, évidemment, puisque vous, vous avez été donc élu samedi 3 décembre, ce week-end, maire de Clichy-sous-Bois?
Eh bien, plein d'émotions. Enfin, je suis heureuse, ouais, heureuse de pouvoir représenter les Clichy-sous-Bois en tant que maire et d'être à leur service.
D'être à leur service. Première femme, maire de Clichy-sous-Bois, n'est-ce ouais. pas hein?
C'est ça, oui. C'est bien de le dire. Je suis fière, je suis vraiment fière d'être la première femme maire de Clichy-sous-Bois depuis 1947. Et j'espère vraiment que mon accession à la fonction de maire donnera envie à d'autres jeunes femmes, après moi, de devenir maire et puis même plus, hein.
Vous avez échangé avec Olivier Klein, qui est désormais le ministre de chargé de la ville. Quels sont les mots que vous vous êtes dit? Vous avez échangé quoi comme élément de langage, comme on dit dans le milieu?
On s'est échangé plein de choses, parce qu'avec Olivier Klein, on se connaît depuis des années, et puis on a une totale confiance l'un en l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre.
Comment vous le vivez? Quand on vient après Olivier Klein, j'imagine. C'est compliqué, c'est difficile. Vous, comment vous le vivez?
Écoutez, je le vis bien. Je le vis bien parce que on a travaillé main dans la main depuis 2011. Je suis sereine. Olivier a confiance en moi. Il m'a préparée à devenir mère. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés depuis 2011.
À ses côtés, quand vous dites quand vous dites que j'ai beaucoup appris à ses côtés, c'est quoi, une gestion d'une ville, gestion humaine aussi, y compris des habitants?
Oui, la gestion humaine, j'ai appris à côté de Claude Dillin, j'ai appris également à côté d'Olivier, l'écoute, le fait d'être un élu de terrain, d'être proche des habitants, c'est important. M'inscrit dans la continuité de ce qu'il a engagé, ce qu'Olivier a engagé, ce que Claude Dillin a engagé. Mais j'ai continué à travailler aussi avec mon identité et à ma façon.
Quelle responsabilité désormais vous attend, Madame la maire? Vous dites notamment une déclaration. Vous avez dit une ville qui change de visage tout en gardant son âme. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Être un maire de terrain, un maire, comme je vous l'ai dit, à l'écoute des habitants, une mère de gauche, une mère juste.
Vous êtes consciente de ce qui vous attend dans les prochains mois, Madame la maire, Samira Bou Taïbi, justement?
Oui, je suis consciente. Vous me parliez tout à l'heure de responsabilité. C'est une responsabilité importante. surtout dans cette période de crise sociale et énergétique. Il y a également une responsabilité qui est liée aux habitants de ma commune. J'ai pas envie de les décevoir, je veux pouvoir répondre à leurs attentes.
Dites-moi, Madame la maire, vous mesurez, vous réalisez évidemment toute l'ampleur qui vous entoure. Vous êtes française, originaire évidemment de la diversité, de la représentativité nationale. Et le ministre en a profité, vous savez, pour dire quelques mots. Il parlait de fierté modeste, il parlait aussi d'avoir rassemblé dans toute sa diversité. Vous, ça représente quoi justement cette diversité? Je sais qu'il existe des maires, hein, on pense à celui qui est maire de Saint-Ouen, mais vous êtes femme, mère et issue de la diversité. C'est un poids pour vous supplémentaire qui vous incombe?
Non, pour moi c'est une chance. C'est une chance parce que je me dis que d'avoir plusieurs cultures, ça peut être un atout. Et puis moi j'ai été formée par l'école de la République. Et puis moi je me dis que si aujourd'hui je suis enseignante, si aujourd'hui je suis maire, c'est grâce justement à cette école de la République. Et si j'avais, moi, un message à passer aux jeunes, c'est que leur destin, il n'est pas écrit à l'avance. Hein. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, moi, je suis une fille d'ouvrier. Et je le redis parce que pour moi, c'est important. Sans les services publics, sans l'école de la République, j'aurais peut-être pas eu les moyens d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je dis non, je vois pas pourquoi ce serait un poids. Pour moi, c'est plutôt... Un atout.
Je vous posais la question, vous savez pourquoi? Parce qu'on a tout entendu depuis que vous avez été élu maire de Clichy-sous-Bois. On a tout entendu d'une femme issue de la diversité. C'est pénible, hein, évidemment, lorsque...
Ouais, mais ça booste, parce que moi, quand j'entends ce genre de propos, ben, je me dis, ben moi, voilà, je souhaite continuer à œuvrer en faveur de l'égalité des chances et puis donner aux jeunes les moyens de leur propre réussite. Et quand je dis notre destin n'est pas écrit, et ben justement, c'est à nous de nous lever et puis de dire voilà, nous aussi on y a droit, nous aussi on y arrivera. Et puis c'est pour ça que moi je crois vraiment en valeur de la République et je crois vraiment à l'école de la République.
Vous m'avez l'air extrêmement sereine depuis que vous êtes élue samedi dernier maire de cette ville qui est connue d'ailleurs. Hein. On la connaît depuis les émeutes hein, d'il y a quelques années. Ça vous fait sourire, j'ai entendu. Pourquoi?
Oui, oui. Bah, ça, non, c'est vos propos qui me font sourire quand vous dites que vous êtes assez sereine. Oui, c'est un de mes traits de caractère. C'est un de mes traits de caractère. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai été préparée. J'ai beaucoup travaillé à côté d'Olivier, de Claude Dillin. J'ai vu un peu comment il fonctionnait. Je suis proche de la population. Je suis à leur écoute.
Alors maintenant que vous êtes maire de Clichy-sous-Bois, est-ce que c'est Samira désormais Bouhou Taïbi qui va incarner ce nouveau poste avec sa patte, son empreinte, sa marque aussi, ou est-ce que vous allez tenir compte évidemment de ce qui vous a évidemment transmis comme témoin Olivier Klein?
Eh bien écoutez, moi je veux travailler dans la continuité, hein, parce que voilà, on a toujours prôné les valeurs de la gauche, mais en mettant ma patte. Mon empreinte.
Votre empreinte, vous vous donnez le temps de la laisser s'inscrire, Madame la maire?
Elle s'est déjà inscrite un petit peu en tant que premier maire adjoint, mais là, voilà, je vais la développer.
Alors justement, en la développant, quels sont les chantiers qui vous attendent prochainement? Je sais que Clichy, par exemple, fait partie de cette priorité, des chantiers prioritaires quand on pense aux JO.
Alors, il y a plusieurs chantiers, hein, c'est sûr. Moi, je vais être attentif et vigilante, on va dire, sur l'arrivée de la ligne 16 du réseau Grand Paris Express à l'horizon 2026, parce que l'un des grands handicaps de la ville de Clichy-sous-Bois, c'était son enclavement. Là, on en sort, donc voilà, ça va être un point de vigilance. J'ai également continué à poursuivre les efforts qui ont été entrepris pour les grands projets urbains. Et essentiellement les copropriétés dégradées, on en a une qui est assez connue sur Clichy-sous-Bois, c'est le Chêne Pointu, et puis œuvrer pour la transformation du cœur de ville.
Les chantiers prioritaires dans les prochains mois, vous pouvez nous en parler, nous en esquisser quelques-uns, Madame la maire?
Alors moi, une de mes priorités, ce sera la jeunesse. Hein, vous avez compris que pour moi, c'était une des priorités. La ville de Clichy-sous-Bois est une ville jeune. Donc là, on met en place des assises de la jeunesse qui permettront aux jeunes Clichois d'exprimer leur attente, leur envie à travers une grande consultation sur des sujets qui les concernent. Et cette consultation débouchera sur des projets concrets et des projets importants. Parce que voilà, il faut être à l'écoute de la jeunesse et puis il faut aller faire en sorte de les aider le mieux possible pour que leur projet puisse se réaliser.
Vous avez, j'imagine, reçu des messages de vos collègues, reçu des messages de félicitations, de soutien, beaucoup, j'imagine. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, Madame la maire de Clichy-sous-Bois ?
Oui, j'en ai reçu beaucoup. Enfin, pour être honnête avec vous, ceux qui étaient présents dans la salle, je sais qu'on a une connaissance commune à Cli, vous pourrez lui demander. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle. La salle était vraiment pleine. J'ai vraiment eu beaucoup d'émotions. Ils m'ont transmis beaucoup d'émotions parce qu'ils étaient là, ils m'ont soutenu, ils m'ont applaudi, ils m'ont remercié. Et pour moi, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'étais vraiment vraiment heureuse. C'est le terme, ouais, heureuse.
Désormais, la toute nouvelle maire que vous êtes, professeur des écoles depuis 27 ans, je le rappelle, à Clichy-sous-Bois, donc la ville, vous la connaissez très bien. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous êtes animé indirectement ou directement par une espèce de pression que vous vous mettez, ou est-ce que vous, comme je vous connais, vous continuez à agir de façon extrêmement sereine ?
On a toujours de la pression parce qu'on veut mieux faire, on veut aller plus loin, donner de plus. Donc cette pression, elle est là, mais je garde quand même cette sérénité. Donc j'arrive à trouver un juste milieu. C'est vrai que moi je suis également exigeante. Donc, la pression, elle est là, mais on essaie de la gérer avec sérénité.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vous savez, la France vous écoute. Partout en France, hein, dans toutes les grosses provinces, y compris à Clichy-sous-Bois d'ailleurs, où on a beaucoup d'auditeurs qui interviennent. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir s'ils vous écoutent ? Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, Madame la maire ?
Comme message ? Alors moi, il y a une phrase qui me vient en tête, justement, quand on parle d'égalité des chances. Moi, étant jeune, j'avais fait des études de sciences économiques et sociales, et tout au long de mon cursus, j'entendais les enfants d'ouvriers finiront ouvriers. Et là, ce que je veux dire, c'est que non, c'est à nous. Notre destin nous appartient et c'est à nous de faire en sorte de réaliser nos rêves, nos projets. Et que, je le redis, hein, ça fait un peu redondant, mais moi, j'y crois vraiment, que grâce au service public, grâce à l'école de la République, eh ben, on peut atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves.
Félicitations pour cette, évidemment, ce tout nouveau poste, la toute nouvelle maire, Samira Bou Taïbi. Nous aussi, on est fiers, quelque part, évidemment, d'une femme issue de la diversité, incarnée, Clichy-sous-Bois. Vous savez ce qu'on dit ici, tous les jours, dans les informés, non, Madame la maire ? On ne lâche rien. Donc, j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien.
Ben, je n'ai rien lâché jusqu'à présent. J'ai toujours beaucoup travaillé et ça a toujours payé.
Eh bien, on vous le souhaite. Ne lâchez rien, Madame la maire.
Merci beaucoup, Adil.
À très bientôt. Au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Beurre FM. À bientôt, Madame la maire.
Merci.
À très bientôt. J'aime beaucoup, hein, c'est vrai. Elle dégage une espèce d'onde positive. Et ça, j'aime bien. Moi, j'aime. Vous savez, on ressent une toute nouvelle maire avec plein d'émotions. Et en même temps, elle a l'air rassurée par voilà ce qui l'attend. Elle mesure évidemment l'importance et le poids qui l'attend, mais je vois bien là que évidemment elle aborde les choses avec beaucoup de sérénité et on lui souhaite bonne chance, parce que c'est vrai que quand on vient après Olivier Klein, qui est une forte personnalité, hein, il a du charisme, etc. Donc mais Samira Bou, on la connaît, Taïbi, donc elle saura évidemment incarner cette ville et les responsabilités qui l'attendent. Bon courage à aller, 18h14, vous le savez, on va marquer une pause, on va se retrouver avec Mohamed Kaki qui va nous parler de sa pièce de théâtre. Mais j'essaierai d'ouvrir aussi l'antenne tout à l'heure. Maître Franck Serfati à 18h30 pour le Quoi de Neuf. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, c'est tout. Si vous, 01-53-48-3000, j'ouvrirai l'antenne dans une poignée de minutes, 18h21, nous allons retrouver l'interview, la seconde interview qui vous attend dans les informés.
Les informés. L'interview.
C'est avec Mamed Kaki, le président, le boss, le patron, celui de l'association Les Oranges. Bonjour, bonsoir, mon cher président.
Bonsoir, merci Adil de votre accueil.
Mais écoutez, avec plaisir, vous le savez, toujours un plaisir dans les informés. Dites-moi Mamed Kaki, alors aujourd'hui vous êtes le président d'Orange, mais vous êtes les Oranges, pardon, l'association Les Oranges, parce que si je dis Orange, on va croire que c'est Orange, vous savez, l'opérateur.
Hein. Pas,
le mec,
pas.
Le premier franco-maghrébin à la tête d'Orange, c'est magnifique ça quand même. Hein. Vous imaginez, quelle belle chose. Bon bref, l'association Les Oranges. Dites-moi aujourd'hui, vous êtes créateur, vous avez aussi mis sur pied une pièce de théâtre. Parlons-en, parce que c'est un événement aujourd'hui. Hein.
Oui, absolument. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens. Alors, nous venons de faire une tournée nationale.
Oui.
On était en province, on était dans la région parisienne, dans plusieurs endroits. On a eu un accueil fabuleux, un public fabuleux, magnifique.
S'il y a un mot qui résume cet accueil, c'est quoi ?
Eh bien, c'est la chaleur, c'est surtout les questionnements, par exemple, avec les lycéens, parce que j'ai joué aussi devant des publics de lycées, et qui disent toujours, mais Monsieur Kaki, c'est une vraie histoire
Et donc,
à chaque fois, je dis, il y a un peu de vrai.
C'est marrant cette question-là, hein, c'est incroyable.
Et donc, il y a vraiment une espèce de joie, parce que dans la pièce de théâtre, justement, parlons-en, qu'est-ce que c'est ? Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens, c'est une pièce de théâtre qui parle du 17 octobre 1961, donc la manifestation pacifique qui avait eu lieu le 17 octobre 1961, justement, et qui s'est terminée par...
Avec la répression meurtrière qui s'est abattue, rappelons-le, hein.
Voilà, moi j'appelle ça un crime d'État, puisque ce sont les plus hautes autorités de l'État à l'époque, notamment le Premier ministre Michel Debré, mais Roger Frey, qui ont donné carte blanche au sinistre Maurice Papon, préfet de Paris à l'époque, qui avait dit en deux mots, nettoyez-moi ça, à propos des manifestants qui manifestaient pacifiquement, il faut le rappeler, il y avait des femmes, des enfants, des hommes, tous endimanchés, c'était nos parents. Et ce jour-là, ce soir-là et les jours suivants, eh bien, ils ont fait l'objet d'un massacre total, vraiment. Et donc, je voulais leur rendre hommage. Voilà. Je voulais dire qu'ils ne sont pas morts pour rien, que c'est ce que nos parents...
J'ai jamais une déclaration, justement, Mohamed Kaki, vous avez dit, nos parents étaient considérés comme des ennemis de l'intérieur, des félagas combattants pour l'indépendance. Et nous, leurs enfants, les victimes du racisme d'État. C'est une déclaration que vous aviez, que je récupère. Cette phrase-là a tout son sens. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en lumière ? Le sacrifice des travailleurs, justement, algériens en France ?
Alors, en fait, on appelait ça, comment dire, génériquement, les gens de la préfecture, vous savez que la police à l'époque, pour eux, un bougnoul, c'était un bougnoul. Ils disaient pas forcément les Algériens.
Non. D'ailleurs, ils les appelaient Vous avez raison.
Ils les appelaient les Felaga, ils les appelaient les FMA, les Français musulmans d'Algérie.
Absolument.
Mais en fait, c'était tout ce qui ressemblait à un Algérien. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des Espagnols, des Marocains, des Tunisiens, qui ont été fauchés aussi dans la même époque, parce que pour eux.
Souligner, oui. Oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai eu des témoignages à l'antenne, oui.
Voilà.
Oui.
Et donc, c'est important de rappeler que personne dans ce type de crime, personne n'est épargné. Donc, moi, ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont, ce jour-là, le 17 octobre, eh bien, ils se sont relevés. C'est ce que j'appelle le corps d'exception.
Ouais.
C'est quoi le corps d'exception ? C'est que toute l'histoire de la colonisation a voulu briser les corps et les tordre. C'est-à-dire qu'un bon arabe, c'est un arabe qui marche courbé. Et ce jour-là, le 17 octobre 1961, comme justement le 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kharata, eh bien les Algériens de l'époque, qu'on appelait les FMA, les Français musulmans d'Algérie, eh bien se sont redressés. Ils ont dit c'est fini, il y en a marre. On veut plus vivre comme des esclaves. Et donc c'est un courage immense qu'ils ont eu à Paris ici, sachant le risque qu'ils pouvaient avoir par la police, qui était d'autant plus que le préfet Maurice Papon avait fait courir le bruit que les manifestants auraient tiré sur la police. Donc les flics voyaient rouge. C'est pour ça que c'est une histoire complexe. Mais ce que je veux dire précisément, parce qu'il n'y a pas que le 17 octobre dans ma pièce, il y a aussi l'indépendance, la joie.
Justement, Mohamed Kaki, vous, on vous connaît, j'ai pas besoin de vous présenter. Vous êtes un militant presque inlassablement. Vous parlez évidemment de l'histoire. Dites-moi, vous avez puisé dans, pour raconter votre histoire, vous avez puisé dans quoi précisément? C'est une histoire personnelle? C'est un scénario qui est né de quoi précisément?
Merci Adil pour cette question qui revient à chaque fois, qui est vraiment inlassablement dans toute, vous avez synthétisé toutes les questions qui se posent dans toute la France où je vais, dans les lycées, dans les centres culturels, dans les théâtres. À chaque fois, le public, après, dans l'échange, me pose cette question. Mais comment vous avez fait pour écrire? Eh bien, je vais vous répondre. Premièrement, j'ai mis 3 ans et demi d'écriture. 3 ans et demi d'écriture, de maturation, parce que l'écriture, c'est toujours la réécriture. On n'écrit jamais d'un seul coup. On écrit, on réécrit sans cesse. Alors j'ai puisé à la fois sur une expertise de vie, c'est-à-dire de ma propre vie, mais aussi sur des enquêtes que j'ai faites, parce que j'ai une formation de sociologue, et donc j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup eu des témoignages de gens de l'époque. Et puis, évidemment, j'ai... parcouru toute la documentation disponible sur ce sujet-là, et singulièrement un de nos amis qui est parti, qui était un ami personnel avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Jean-Luc Hénaudic, à qui je rends hommage notamment. Donc voilà, c'est toute cette fresque-là. Mais, et vous avez raison de me pousser dans cette question, et je ne vais pas...
Il nous reste 2 minutes, hein, pardonnez-moi, 2 minutes à l'antenne. Avant de lancer oui, parce qu'on a une contrainte, vous le savez, mon cher Mohamed Kaki, c'est l'horloge avant de lancer les pubs ou les. Donc je vous écoute, pardonnez-moi.
Voilà, je voulais. En fait, ça s'appelle l'écriture de la vie. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé, l'écriture de la vie, de notre vie collective. Voilà, et donc on dans cette pièce, on rit, on pleure, il y a de l'émotion. Il y a de la frayeur, il y a de tout, comme le théâtre, et ça permet, le théâtre, c'est le seul endroit au monde où l'on peut dire des choses que l'on ne peut dire nulle part ailleurs.
Vous savez quoi, votre énergie et votre enthousiasme nous donnent envie de venir vous voir. Après cette tournée hexagonale, mon cher Mohamed Kaki, dites-moi, je sais que vous allez vous retrouver au théâtre de la Salle des Fêtes, ça se passe à Nanterre. Quelle date et quelle heure, justement, pour celles qui nous écoutent dans la région?
Tout à fait. Eh bien, c'est donc au Théâtre des Fêtes, 2 rue des Anciennes Mairies, à Nanterre, Nanterre-Ville. C'est à 20h précisément. Et on peut nous retrouver dans le groupe Les Oranges sur Facebook. On a un groupe qui s'appelle Les Oranges à Facebook. Et évidemment, et donc il faut un petit peu réserver par mail ou par téléphone. Voilà le téléphone. Donc on peut envoyer un SMS au 06 12 63 63 69. Et puis on peut venir en famille. Le tarif est libre, ça veut dire que chacun donne ce qu'il veut à l'entrée. C'est-à-dire que voilà, comme on n'a pas eu de financement pour cette représentation à Nanterre, malheureusement, eh bien je le regrette. Eh bien nous disons au public de donner ce qu'ils veulent.
Eh bien, j'ai envie de vous dire un mot. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça se passe à Nanterre, le 6 novembre à 20h au théâtre de la Salle des Fêtes à Nanterre. Tout est dit. Merci infiniment, mon cher Mohamed Kaki, merci. Le président de l'association Les Oranges, mais également aussi créateur de cette pièce de théâtre, donc que vous pouvez aller vivre. J'ai bien dit le mot vivre avec évidemment un personnage qui est assez incroyable, charismatique sur scène. Allez le voir. Donc ça se passe le 6 novembre. J'ai manqué la date.
Le 17 décembre.
Le 17 décembre,
2022,
pardon.
Voilà. À 20h, voilà. À Nanterre, Salle des Fêtes.
Voilà, absolument. Mille merci à vous et bonne chance.
Merci cher Adil. À bientôt.
À bientôt, 18h30. Nous lançons le Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est avec, comme chaque lundi, le billet d'humeur, l'édito, c'est avec Maître Franck Sarfati. Aïe, aïe, bonsoir mon cher maître.
Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? La semaine s'est bien passée?
Très, très bien. Merci infiniment.
La vie démarre bien.
La vie démarre bien. Vous, c'est le mot qu'on puisse dire. Eh bien, vous, oui, absolument, absolument. Vous avez décidé ce lundi de consacrer votre édito, votre billet d'humeur sur les coupures d'électricité. C'est parti. On vous écoute.
Effectivement, Nadine, une fois n'est pas coutume, je me tiens là depuis quelques semaines à une actualité des plus brûlantes, et puis chacun a pu entendre, et souvent, et de façon totalement justifiée, de façon un petit peu surprise et mécontente, que le gouvernement avait décidé d'envisager des coupures d'électricité dans les semaines ou les jours à venir, dans la mesure où il y aurait une pénurie d'électricité. Alors, première question, à l'aube du 23e siècle, un pays comme la France n'est pas ou ne serait pas capable de produire suffisamment d'électricité. Cette question, je n'y répondrai pas, parce que mon billet se veut plutôt juridique et non pas de politique politicienne, mais en tout cas, la société française, la nation française est prise à dépourvu puisque cette mesure a été décidée. Et la question que je pose, est-elle légale, est-elle licite, est-elle acceptable pour un gouvernement français d'envisager donc ce type de mesure, savoir des coupures d'électricité? Alors, a priori, on aurait tendance à dire non, parce qu'il existe en droit français un principe constitutionnel au terme duquel...
Lequel ?
Il existe une césure fondamentale, oui, entre le domaine public et le domaine privé, et à la suite duquel, de ce principe, l'État ne peut s'immiscer outre mesure dans le secteur privé. Je rappellerai qu'EDF, la société principale qui distribue en France l'énergie électrique, fut un temps nationalisée. Elle est aujourd'hui une société privée, une société anonyme de droit privé. Pour autant, il existe un autre principe qui prend le pas, celui de l'intérêt général. Et comme toujours, le droit prévoit inévitablement des équilibres, et ces équilibres sociaux, oui, qui sont organisés par les normes juridiques applicables, insèrent de façon intrinsèque le principe au terme duquel l'intérêt général prime les intérêts privés. Et c'est sur cette base-là, que le gouvernement, face à cette contrainte dont je rappelais à titre liminaire qu'il ne m'appartient pas de juger en termes d'opportunité, de capacité productive ou d'incapacité de la France, en tout cas du fait de cette pénurie, ces coupures qui seront organisées, cadrées, encadrées, ne sont pas illégales au nom de ce principe au terme duquel l'intérêt général, l'intérêt collectif prime l'intérêt privé.
Merci, mon cher maître.
Merci à vous.
Merci, à lundi prochain, sans faute.
À lundi prochain, avec grand plaisir.
C'était le plaisir partagé. C'était le billet d'humeur de maître Franck Serfati que vous retrouvez chaque lundi. On marque une pause et on se retrouve. J'ai envie de vous poser une question, chers amis auditeurs. Vous savez quoi? On parle beaucoup de Covid, de cette 9e vague du Covid-19. Eh bien, je vous pose la question. Je vous attends partout en France, évidemment, si vous craignez ce Covid-19, mais surtout, est-ce qu'il faut réintroduire le masque obligatoire partout? C'est une question compliquée, hein. Compliqué, c'est vrai. Moi, je vois Anthony, le réalisateur, qui est en face de moi, il a mis un masque. Ouais, je vais pas lui dire non de le retirer, pas le retirer. Moi, j'ai pas le masque. Mes collègues qui sont à côté de moi, à mes côtés, les débatteurs influenceurs n'ont pas le masque. Alors, est-ce qu'on doit porter, est-ce qu'on doit rendre le masque obligatoire? C'est la question qu'on pose. Oui, Anthony, tu flippes? C'est ça?
Non, pas du tout. C'est juste que comme il y a ce moment, il y a beaucoup de cas Covid, ouais, je préfère me protéger moi, ouais, et ma famille.
Le réalisateur, il flippe, hein, notre réalisateur. Hein. Oh. Il flippe. Il est en pleine psychose, lui. Hein,
pas du tout. Je suis en pleine forme.
Eh ben, je vous pose la question. Faut-il réintroduire le masque obligatoire, chers amis? Est-ce que vous êtes comme Anthony, il faut mettre le masque? Ou est-ce que vous êtes que, comme d'autres, vous ne mettez pas le masque parce que vous considérez qu'il n'y a aucune crainte? 01 53 48 3000. Je vous attends, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h42, je vous attends au standard, 01 53 48 3000, vous le savez, le jingle, je l'ancien.
Les informer. Les informer. Le face-à-face.
Le face-à-face, non, le jingle des auditeurs, parce que je voudrais qu'ils retiennent ce numéro.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avec la Vienne, la Vienne vague, on est en train de la vivre d'ailleurs. La flèche est montante, mais surtout la question que je vous pose, faut-il tout simplement réintégrer, reprendre le masque, le rendre obligatoire dans les transports, partout d'ailleurs. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes sensible à cela? 01 53 48 3000. Le face-à-face, en attendant vos appels. À tout de suite, c'est parti, le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Avec Pierre-Henri, le président de France Fraternité. Bonjour, mon cher Pierre-Henri. Bonjour, président.
Bonjour, Adil. Bonjour, les amis.
Comment ça va?
Plutôt bien. Voilà.
Les mots qui font débat toujours le week-end?
Les pays en débat?
Oui.
Ah ben, c'est une excellente émission. Et d'ailleurs, je précise que ça se passe sur Beurre FM.
Oui.
On discute.
Tous les samedis dimanches à 8h20.
Voilà, à 8h20, on discute du pays que l'on examine.
Je crois que c'était la Libye, là.
Le Liban, dimanche dernier, nous allons parler de l'Arabie Saoudite, champion du monde avec la
Qatar.
Chine, et l'Iran de la peine de mort.
Qatar, non?
Du
la
Qatar,
Coupe du Monde.
Oui, bien sûr, du Qatar.
À vos côtés, attention, hein, c'est du lourd.
Oui.
Représentant syndical, CGT, oui. Mais également auteur. Celui qui, évidemment, ne retient pas ses mots, il s'appelle Jimmy.
Bonsoir.
Jimmy Dalidou. Bonsoir, Jimmy Dalidou.
Salut, Jimmy.
Salut tout le monde. Bonsoir.
Il essaie de vous adoucir là, mais dites-le, vous m'aurez pas comme ça.
De hein.
Ouais, c'est ça, c'est ça, voilà, exactement.
Oui, mais on sait bien que vous n'êtes pas achetable.
À la CGT, on est incorruptible.
Ouais, surtout quand vous lui mettez
enfin,
en face.
Ça dépend.
Vous savez quoi?
Ça dépend des jeux, ça dépend des moments, ça dépend des lieux.
Attendez, faut qu'on monte le micro de Jimmy Dayon, on l'entend pas du tout. Surtout quand on vous met.
Placez votre voix.
Vous savez, Pierre-Henri, surtout quand on lui met en face, vous savez quoi, un représentant de Renaissance. Alors là, il ne supporte
plus,
pas.
En plus.
Il ne supporte pas, Jimmy, j'ai remarqué. Il ne supporte pas. Mais c'est vrai, il ne supporte pas Renaissance.
Ah, c'est eux qui ne supportent pas la CGT, en fait.
Nabil Aïtakash, bonjour.
Bonjour, Adil.
Le représentant de Renaissance sur le département du 93.
Exactement.
Messieurs, tout de suite, je vais parler de cette 9e vague, mais surtout du masque obligatoire. Alors, vous savez quoi? Il y a un mot, moi, qui m'a un peu surpris. Mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du port du masque, assure François Braun, le ministre de la Santé. Mais pourquoi il a besoin de dire mon bras ne tremble pas? Ça se dit pas, non, normalement, quand on est ministre?
Non, et puis il n'a pas besoin de trembler. Je pense que les citoyens...
Quand on est urgentiste, on ne tremble pas normalement.
Oui, et puis les citoyens français, les habitants de ce pays, savent que le masque peut tout à fait protéger. Ouais. Nous sommes dans un moment où il y a une résurgence à la fois de bronchiolite, de Covid et de grippe. Et donc, le masque est un élément de protection. Voilà, comme le vaccin, d'ailleurs, au passage. Et donc, j'imagine que le ministre va pas dire qu'il tremblera pas en rappelant que le vaccin protège. Mais voilà, il sait peut-être pas trop quoi dire, donc...
Moi, j'ai trouvé cette déclaration un peu bizarre, quand même.
Ouais,
mon bras ne tremblera pas. Ah. Ouais, mais bon... Bah, c'est étonnant.
Il montre les muscles, voilà.
Ouais, il montre les muscles. Jimmy Dalidou.
Ouais, non, mais il tremblera pas du bras, mais dans quelques temps, il va vite trembler des genoux. Vous allez voir quand.
Quand quoi?
Bah, quand le peuple français va se mettre en mouvement de par ce qu'il attend, à mon avis, il va trembler des genoux.
Le peuple, on l'entend pas trop en ce moment. Hein.
Bah, il va arriver, d'ailleurs.
Le peuple. Bon, après,
sur les masques, de toute façon, dans tous les cas, le masque Covid ou pas Covid, c'est toujours bien de porter le masque quand on est malade. On va pas revenir là-dessus.
Voilà,
il
n'y
a pas besoin d'être un ministre qui ne tremble pas de bras pour savoir ça, en fait.
Le voilà enfin sage, j'ai dit.
Ensuite, je dirais que, ouais, là, il parlait par rapport au Covid. Ce que j'appelais moi la mascarade sociale.
Oui, la mascarade sociale.
Ouais, mascarade sociale.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que je crois que le Covid, évidemment, ça a été un élément.
Il a été un
ce qu'on appelle une mascarade sociale permettant de contrôler une tentative de contrôler certaines subjectivités.
Certains diront que c'est du complotisme.
Non, c'est pas du complotisme, c'est une analyse de la réalité objective.
Oui.
Ah ouais.
Tout à fait.
Nabil, vous répondez quoi?
La réalité objective, c'est qu'il y a quand même eu des millions de.
Tournez bien le micro, voilà.
C'est qu'il y a quand même eu des millions de morts, donc on va pas rentrer dans ce débat parce que je pense que c'est pas la question ce soir. La question, c'est est-ce qu'on met des masques et c'est pas une décision politique. Hein, c'est quand même tu le disais tout à l'heure, Pierre-Henri, il y a quand même une montée encore des cas de Covid. On a la bronchiolite en même temps. C'est compliqué. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, quand on vient dans les transports, là, de plus en plus de personnes mettent le masque. Et je pense que ça rentre un petit peu dans l'esprit des Français. Et c'est pas le ministre de la Santé qui doit annoncer là tout de suite comme ça une décision politique. Donc voilà, on laisse les Français juger ce qui est utile.
On va juger ce qui est utile. Anthony, notre réalisateur nous a retrouvé l'extrait justement de cette déclaration. Écoutez.
Le rapport. S'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Actuellement, c'est pas le cas. Je suis la situation au jour le jour, et les décisions suivront l'évolution de la situation.
À partir de quel seuil, faut qu'on passe à une obligation, par exemple
Pierre-Henri, justement, est-ce qu'on doit rendre le masque obligatoire? Quand on sait que les Français comme le dit Jimmy d'ailleurs, ont plongé quand même dans cette espèce de...
Un peu de bon sens. Dans les transports en commun, là où il y a un brassage énorme, oui, bien sûr, si mettre le masque en période d'hiver, en période d'épidémie, de grippe, de
bronchiolite, de Covid. Mais les Français, on en a marre des masques. Ça te fait respirer du CO2, ça te donne mal à la tête, et puis les Français en ont marre des masques.
Ça donne mal à la tête.
Le masque protège.
Dans d'autres pays, quand on va en Asie, ils le portent assez facilement en hiver.
C'est Covid stratégie zéro.
Non, mais je parle du Japon en général. Vous voyez les gens mettre des masques quand ils sont malades. Ça doit être quelque chose d'assez hygiénique aussi. Il y a un moment de santé publique.
Mais vous répondez quoi, Jimmy, qui vous dit non, ça sert à rien et on a mal à la tête et on prend du CO2. Je sollicite nos auditeurs aussi. Comment ils vivent? Est-ce qu'ils sont d'accord avec tout ça? 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, je vous attends.
Pendant des années, on portait pas de masque dans le micro et dans les métros et les gens ils se soignaient. Il faut intervenir dans les hôpitaux pour que les gens puissent se soigner. C'est là qu'il faut intervenir. Au niveau des masques.
Qu'il y avait beaucoup plus de gastro, etc. Parce que Jimmy, il me fait marrer. Quand il est rentré tout à l'heure dans le studio, le premier geste qu'il a fait, c'est d'aller chercher une bouteille de gel et
le gel hydroalcoolique, quand l'utiliser, parce que avec du gel hydroalcoolique, t'as moins de gastro-entérique, t'as moins de choses comme ça, mais le masque, non, c'est pas pareil, parce que tu respires, ça te déclenche les maux de tête incroyables. Les gens qui portent des masques toute la journée. À la fin de la journée,
on parle du masque dans les transports. On parle du masque toute la journée.
Des gens qui ils passent 4 heures dans les transports par jour. Ils vont porter le masque.
Donc, qu'est-ce que tu fais pour les personnes qui ont une santé fragile?
La première chose qu'il faut faire, il faut leur apporter des médecins.
Moi, j'ai une amie qui nous écoute peut-être aujourd'hui. Elle fait très, très attention.
Chacun un tour de rôle, c'est mieux quand même. Le débat est très intéressant. Allez-y, Jimmy Dalido, répondez-lui, vous répondez.
Il faut intervenir sur deux choses. Oui. Indépendamment des masques, il faut.
Je sollicite nos auditeurs 01 53 48 3000. Je voudrais les entendre sur ce sujet.
Aux hôpitaux. Je vous rappellerai que ces dernières décennies, les hôpitaux ont été détruits sur l'autel du profit. Appelons un chat un chat. Il faut faire en sorte qu'il y ait des médecins qui soient accessibles. Je vous rappellerai qu'il y a de moins en moins de médecins accessibles dans ce pays, notamment
des problèmes aux urgences. La campagne, tout le monde le sait. Mais allez dire qu'on a détruit. Mais aller dire qu'on a détruit les hôpitaux, c'est quand même complètement ridicule.
On a détruit
les sorts du pays.
Destruction du service public.
Et va regarder ce qui se passe ailleurs. Je t'assure que tu reviendras en France et que tu loueras le service public hospitalier, quelles que soient les difficultés qu'il y ait.
Que tu défends,
franchement.
Non, mais Jimmy, en fait.
Détruit par la classe sociale que vous défendez. C'est ce qu'il vous dit, Jimmy.
De par ton discours, c'est une classe sociale. Que tu défends,
ridicule,
apparemment.
Il nous sort toujours ces éléments de langage.
Alors pourquoi il n'y a pas eu de fermeture des lits, ça n'existe pas, Henri.
Ça fait 10 ans qu'il y a eu des fermetures de lits
et qui sont avérées
problématiques. C'est vrai qu'il y a
donc pour toi parfois, c'est une façon convenable de faire fonctionner un hôpital.
Je dis tout simplement
mais qu'est-ce qu'une fermeture de lit déjà? Est-ce que tu peux nous définir la fermeture de lit, c'est quand il y a moins de soignants. On va pas maintenir des lits. Les dernières fermetures de lits qu'il y a eu, c'est parce qu'il y avait pas de soignants pour pouvoir les.
C'était ma question. Est-ce qu'il faut réintégrer justement le personnel soignant qui ne sont pas vaccinés? Bonne question. Non, mais on se la pose. Notre pays voisin, les Italiens, eux, ils l'ont fait. Ils ont réintégré le personnel soignant.
L'extrême droite.
Voilà, exactement. L'extrême droite.
Il y a un besoin. Messieurs, s'il vous plaît, il y a un besoin. Est-ce que oui ou non, on les réintègre?
Non.
Et je voudrais entendre nos auditeurs au 01 53 48 3000. Je veux vous entendre sur la question du Covid et sur le masque obligatoire.
Mon cher Adil, j'ai pas envie de me faire soigner, moi, par des gens qui vont pas me protéger si jamais.
Mais si le protocole est là, mon cher Pierre-Henri, si on met en place le dispositif du protocole.
Quel protocole?
Le protocole.
Les mecs sont pas soignés, ils sont contre les vaccins, ils te parlent de complotisme quand on aborde la question des vaccins qui a sauvé des millions et des millions de personnes. Non, mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans un hôpital où je vais me trouver confronté à des soignants qui professent de telles inepties. Non, je pense, et puis en plus, c'est à l'autorité médicale de dire si oui ou non, à un moment donné, on pourra les réintégrer, mais pour l'instant, il y a toujours une pandémie, et moi, je suis absolument opposé à leur réintégration.
Jimmy Dalidou.
Alors je suis, c'est inconcevable qu'on réintègre pas le personnel soignant pour plusieurs raisons. C'est un personnel qui est très compétent, qui est très performant, qui a une force de travail formée. C'est une force de travail formée et compétente, et on peut pas se passer d'une force de travail formée et compétente
à
un moment où dans les hôpitaux, on a besoin de personnel formé, compétent, qui puisse soigner les gens. C'est inconcevable qu'à l'heure où l'hôpital public a été pulvérisé sur l'hôtel profit, contrairement à ce que dit monsieur Henri, le service public a été pulvérisé, on ne peut plus se soigner convenablement dans ce pays, et en plus, on licencie du personnel soignant compétent et on refuse de réintégrer ce personnel soignant compétent. C'est inconcevable et c'est totalement irresponsable. De la part de ce gouvernement, c'est irresponsable.
Nabil Etakache, irresponsable. Voilà le mot lâché par Jimmy Dalidou.
Non, justement, c'est une question de responsabilité. Pour avoir discuté avec beaucoup de personnel soignant non vacciné, quand vous parlez avec eux, ça va très très vite dans la théorie du complot. Hein. C'est après, au-delà de ça, je préfère
pas rentrer dans ces détails. À partir du moment où on s'oppose dans l'opposition, dans ce pays, dès qu'on est dans l'opposition, on devient complotiste. Il faut dire oui, Macron, monsieur Macron, vous avez raison.
Non, c'est
pas la question. On est complotiste.
Non, c'est pas la question.
Non, mais le premier
pays qui le fait, c'est un pays d'extrême droite. On vient de le dire.
À partir du moment où vous êtes dans l'opposition, vous êtes complotiste.
Non, c'est juste une question.
Ah si, c'est exactement.
C'est juste une question de responsabilité.
Il y a un personnel qui est formé, qui est compétent. Ça, pour certaines personnes,
quand on entre à l'hôpital, il y a une responsabilité.
Les personnes, elles ont travaillé pendant des années et elles ont été virées comme des chiens.
La responsabilité, c'est d'être soigné quand on entre à l'hôpital, c'est pas d'en ressortir avec une infection. Si vous faites des chirurgies lourdes, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui rentrent?
L'infection, c'est le profit qui s'intègre dans l'hôpital. C'est ça la véritable infection. L'infection du capital, c'est ça la véritable infection.
Bon. Je n'ai rien.
Les bras vont tomber. Le véritable.
Tu devrais te faire soigner, Henri, si t'es là-bas.
Mais je pense qu'il faut aller dans les pays où il n'y a pas du tout d'infrastructure de santé et dans des pays où il y en a, mais où elle est réservée aux riches. En France, c'est pas ça.
Tu sais pas quand on va y arriver.
C'est complètement.
De par les rouages de fonctionnement de l'économie, du mode de production actuel, tu vas y arriver, c'est inévitable.
Parti aux États-Unis. J'ai un ami qui est parti aux États-Unis cet été et son épouse s'est fracturée le bras. Opération 20 000 euros. Voilà, c'est tout. Et du coup, quand tu rentres, tu loues le système de santé français, quelles que soient ses difficultés. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas de difficultés.
C'est un immense chantier, on le sait.
Évidemment, et depuis 30 ans, parce que tous les gouvernements ont négligé cet aspect-là, qui coûte beaucoup d'argent. Mais on a un système qu'il faut louer.
Plus d'hôpitaux, pas assez de médecins urgentistes, pas assez de personnel, les infirmiers qui sont mal payés, qui touchent après des années d'études, qui sont payés à coups de lance-pierre. Magnifique l'hôpital public.
Ce n'est pas vrai.
Magnifique.
Un hôpital
qui va devenir société anonyme, devenir société anonyme comme ils l'ont déjà fait avec le ferroviaire. Magnifique le service public.
Bon.
Messieurs. Eh, tu sais quoi, mettez des milices dans les commissariats, tiens, pendant qu'on y est.
De quoi?
On n'a qu'à mettre des milices dans les commissariats pendant qu'on y est. Privatiser tout le service public.
Pulvériser
le service public et mettez des milices dans les commissariats.
Il
n'y
a plus besoin d'argumenter parce que je pense que les auditeurs vont voir que tout ce qui est excessif et qui est prononcé.
Les auditeurs, ils veulent accéder à un hôpital convenable.
Eh ben, je les sollicite. 01 53 48 3000, je vous attends. Voilà. Justement, venez exprimer ce que vous en pensez. Loi énergie renouvelable, le second sujet qui a retenu notre attention. Sauf que là, la NUPES, vous savez quoi? Elle est en train d'installer un bras de fer avec justement pour faire passer cette loi concernant les énergies renouvelables. Alors, est-ce qu'elle est prête, la NUPES, à discuter avec la majorité pour faire passer le projet de loi, Pierre-Henri?
Le problème, c'est que d'abord, la NUPES
nous pesons divisée. De tout notre poids.
Oui, enfin, la NUPES, aujourd'hui, est profondément divisée sur cette question entre les écologistes, les communistes et LFI. Les communistes, par exemple, sont favorables au nucléaire. Les socialistes disent qu'il faut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Et puis, de plus, veulent mixer avec le renouvelable. Par contre, les écologistes, pour une large partie, sont 100% pour une énergie renouvelable. Évidemment, ça pose problème. Donc, quand la NUP dit on va imposer un bras de fer, faut aller regarder à l'intérieur de la NUP qui veut imposer un bras de fer. Et en l'occurrence, les écologistes ont plutôt été très bien traités par le gouvernement, puisqu'ils ont fait un certain nombre de propositions qui ont été acceptées. Il reste le débat à l'Assemblée nationale, mais les Verts, pour la première fois, disent on va peut-être voter le texte qui est proposé par le gouvernement. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose.
D'ailleurs, ils saluent quand même la concertation et l'écoute de la part du gouvernement. Donc, l'objectif, c'est un projet de loi pour renforcer les énergies renouvelables. Donc ça va dans le bon sens. Je rappelle quand même qu'on est dans une période compliquée sur l'électricité, sur les énergies en général. Donc plus on favorisera...
On parle de coupure, tout simplement, de plus en plus.
Oui. Plus on favorisera le renouvelable, plus on aura une indépendance énergétique. Et si la NUPES entend... Alors je ne sais pas s'ils sont vraiment dans un bras de fer. Leur objectif... Encore une, ce que disait Pierre-Henri est très vrai, c'est que vous avez tout un spectre chez la NUPES. Vous en avez qui profitent de cette main tendue par le gouvernement pour améliorer le texte, et c'est très bien. Je pense que on va dans le bon sens. Ensuite, si la France insoumise souhaite s'abstenir, c'est déjà une bonne chose. Ils hésitent. J'ai cru comprendre qu'ils hésitaient entre une abstention.
C'est ça. Ils hésitent.
Un vote contre.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors sur ce sujet, oui, effectivement, il faut développer
ce qui est inédit, c'est que jusqu'ici, la NUPES était toujours opposée, évidemment, au gouvernement, à l'exécutif.
Oui, mais en même temps,
c'est difficile de s'opposer sur un sujet qui devrait être consensuel aujourd'hui. Ouais. La production d'énergie renouvelable.
En même temps, effectivement, le consensus, on devrait tous être qu'il devrait y avoir un consensus à ce niveau-là. Mais en tout cas, je pense pas que les énergies renouvelables doivent se substituer au nucléaire. Moi, je suis plutôt pour une utilisation rationnelle du nucléaire. Et de plus, ça va poser la question
comme
du financement. Ça va poser la question du financement. Comment on va pouvoir financer mettre en place des éoliens et des panneaux solaires, ça coûte excessivement cher. On a du mal à faire fonctionner des chauffages apparemment, puisqu'on demande aux Français de couper le chauffage. Donc je vois pas comment ils vont pouvoir financer des éoliennes et des panneaux solaires. Et de plus, je pense que au niveau des lois, il faudrait d'abord qu'il soit en cohérence et en harmonie à tous les niveaux. La NUPES, par exemple, a proposé une loi qui, ma foi, est juste, qui consiste à interdire les jets privés. Parce que ces mêmes personnes qui vous disent qu'ils veulent faire passer des lois pour soi-disant sauver la planète, parce qu'on est en train de pulvériser la planète sur l'autel du CO2, etc., etc. Pendant ce temps-là, ces messieurs, ils font des lois, et derrière, ils vont sortir de l'hémicycle, ils vont prendre leur jet privé, ils vont aller se balader.
Qui prend un jet privé?
Si vous voulez faire un effort, d'abord, laissez votre jet garé. hein, laissez-les stationner un petit peu.
Quel est l'enjeu de ce débat? Quel est l'enjeu de ce truc? Pierre-Henri, vous dites quoi, Pierre-Henri?
Donc, si vous.
Qu'est-ce que je peux répondre au jet privé?
Non, mais il a raison, ça. Moi, j'ai entendu ce débat. Non, mais attendez. Je l'ai entendu, ce débat, y compris dans les chaînes de télévision.
Vous voulez passer un peu de temps derrière, vous allez vous balader avec vos jets privés. Mais c'est du foutage de gueule, carrément. Une loi, pourquoi?
Bien sûr. Moi, c'est marrant. Non, hein, je connais pas mal de parlementaires. J'en connais aucun qui prend des jets privés. Mais bon,
tu en as peut-être. Si Jimmy le dit,
tu les as peut-être vu garer sur la place du Palais Bourbon, les jets privés. J'imagine.
Je vais compléter. Jimmy Dalidou n'a peut-être pas tort parce que figurez-vous qu'il y a certains ministres quand même qui ont emprunté le jet privé pour se rendre d'un lieu d'un autre.
C'est bien connu.
Ils étaient plusieurs, donc ils étaient en petite délégation. Non, mais en petite délégation, ils prennent un jet privé pour les joueurs de foot, par exemple. Ça a fait polémique, tiens, pour ce jet privé où les joueurs de foot du PSG, ils étaient obligés de prendre un jet privé pour juste faire. C'était la Ligue 1, c'était ce fameux match de Ligue 1. Au lieu de prendre le train, on leur a dit, mais attendez, pourquoi vous prenez pas le train? Contre Nantes, merci. On leur a dit, mais attendez, pourquoi vous avez pris un jet privé au lieu de prendre le train SNCF? C'est là où la SNCF, elle a fait une proposition, elle a dit, venez, je vous offre.
Proposition européenne.
Il a raison, Jimmy, il a raison.
D'interdire les vols.
Je vous prends l'exemple de PSG Nantes. Ils ont pris un jet privé, ils sont là quelques heures.
Pardon, mais c'est pas le PSG.
Si, c'est le PSG qui était pointé.
Il attaque.
On parle de jet privé.
Les élus,
on
parle le gouvernement.
J'attaque.
Non, mais on l'a compris. Il s'adresse à tous celles et ceux qui prennent le jet privé.
Vous venez à son secours, Adil. Mais en l'occurrence, ce n'est pas vrai. Là, il fait un amalgame qui est terrible. Grosso modo, qui consiste à dire tous les politiques sont pourris. Et d'ailleurs, regardez.
Je n'ai pas dit ça. C'est faux ce que tu dis. Ce que je dis, c'est qu'on est dirigé par une classe sociale.
Vous avez dit ça, Jimmy Dalidou?
Non, je dis qu'on est dirigé par une classe sociale qui pense d'abord à intérêts, point barre. Et qu'on est dirigé par des hommes politiques qui, pour la plupart du temps, ne sont pas des éléments de conviction, sont des opportunistes, ce sont des politiques de carrière, ce sont des carriéristes. Voilà qui sont.
Il vous a répondu. Il vous a répondu.
La politique, c'est dire tous. De la médiocrité. Parfois, c'est possible.
Parce que quand tu touches 10 000 balles par mois pour dormir dans un hémicycle, ça dégoûte la majorité des
Français. Ça, je confirme. Les Français sont dégoûtés de la chose politique. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a un divorce. Non, mais la vérité, elle est là.
Il y a un divorce entre
les politiques.
Et là, sur ce plateau, c'est l'exemple. Là, on raconte n'importe quoi.
On raconte pas n'importe quoi. Il parle de jet privé. Mais le jet privé a fait l'objet de polémiques, de débats. Oui, il raconte pas n'importe quoi. On n'a pas rêvé. Moi-même, je l'ai traité sur l'antenne. Non, ce n'est pas n'importe quoi, Nabila Itakash. Non,
c'est pas parce que c'est un débat. Que c'est forcément quelque chose de sensé.
Si, c'est un vrai sujet. Non. Faut-il continuer à prendre le jet privé?
Non, mais c'est très bien. Mais
surtout quand on fait PSG, Paris, Nantes.
Mais ça, sur le symbole, on est d'accord.
Paris-Nantes en train, c'est rapide.
Sur le symbole, on est d'accord, mais c'était pas la question.
Ça a lancé le débat.
L'aviation en général, c'est 4% des émissions de carbone. L'aviation en général. Les jets privés, ça doit être moins d'1%, moins 0,5%. Je suis d'accord sur le symbole, c'est pas la question, mais est-ce qu'on va vraiment s'énerver dégrader l'image des élus, l'image d'un gouvernement?
Mais elle est déjà ternie.
0,5%.
Elle est déjà ternie, l'image. On a vu les sacs, on dirait, vous découvrez. Elle est déjà ternie, l'image.
Mais on n'a pas besoin d'en rajouter. Avec des propos caricaturaux et qui n'apportent aucune solution. La solution, c'est les projets de loi qui sont discutés en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est toute la politique en faveur de la transition énergétique qui sont menées. C'est pas un débat sur est-ce qu'il faut interdire les jets privés. Ça sert à rien.
Mais je rêve pas. La question a été posée. Elle est posée de l'ordre du symbole pour remettre les choses à leur place.
Est-ce que vous êtes légitime pour faire valider des lois? Est-ce que vous êtes légitime à partir du moment où vous êtes incapable de vous déplacer convenablement?
Qui a
Moi, je me déplace pas en jet.
qui a décidé que dorénavant, les vols publics intérieurs, dès lors qu'il y avait des liaisons ferroviaires pouvant permettre d'atteindre les villes
de moins de
2h30,
heures.
Oui, moins de 3 heures, et vont être supprimés.
Alors, bon, pourquoi Jimmy Daïdou a lancé le sujet? Oui. Les jets privés qui transportent des footballeurs ou des dirigeants d'entreprises sont pointés du doigt pour leur impact écologique. Certains appellent même à les interdire pour cas de... Mais je ne transforme pas.
Jimmy de parler des élus. Et il parlait des élus qui
prendraient
des jets
privés. J'étais dans une approche générale d'une situation inconcevable.
C'est ridicule.
J'étais dans une approche générale d'une situation inconcevable.
Ensuite qu'il y ait...
Les avions privés en moyenne 10 fois plus polluants que les avions commerciaux.
Mais c'est vrai.
On ne va pas focaliser
le débat de la transition énergétique sur ça.
La question s'impose. Faut-il réguler, ou non, les jets privés?
Faut-il,
par exemple, interdire les grands paquebots de croisière qui sont extraordinairement polluants? Allez regarder à Marseille.
C'est l'équivalent d'un million de voitures qui tournent.
Eh bien, moi, je suis favorable à ce qu'effectivement, on régule. Bon, mais ça, c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec la qualité des...
La politique française, elle est vachement polluante aussi, ça je peux vous l'assurer. Non, mais de toute façon, membre du gouvernement, quand on se dit gouvernement et qu'on doit mettre en exergue une légitimité, une position morale, alors il y a un minimum d'exemplarité à avoir. Et quand on est incapable de faire quelques kilomètres en train et qu'on utilise des jets privés, c'est inadmissible. Monsieur Henri, c'est inadmissible. Ton discours consiste à défendre une classe sociale de carriéristes.
L'affaire du jet à Nantes pollue le PSG. Vous avez suivi puisque vous m'avez dit. Mais d'autres vols avaient été donc causés par la SNCF au point où la SNCF a pris ça avec sous la forme d'une
humour.
Absolument beaucoup d'humour. Donc la question effectivement elle s'impose et
elle se pose. C'est pas vraiment.
Train ou jet privé. Train ou jet privé. Voilà, exactement. Il y a Boula qui s'invite dans le débat. Ouvrez-lui le micro, tiens.
Au niveau des joueurs de foot, c'est courant les jets privés.
Oui, mais voilà, mais la question, il a raison de la poser.
Après, c'est un business.
Pourquoi c'est caricatural? Parce que on vient de passer 10 minutes sur les jets privés, alors qu'on parle d'énergie renouvelable. Les gens ne vont rien retenir de des énergies renouvelables, ils vont retenir
parlons de mix énergétique. Parlons d'équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables. À 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qu'il faut pour assurer notre souveraineté énergétique. Mais franchement, le débat sur les jets
Pour assumer le débat. Souveraineté, il faudrait d'abord
on doit avancer. Il est 19h10 et on doit avancer. On va parler des Républicains. Je ne sais pas si vous avez suivi les élections. Il y a déjà le premier tour là. Ça y est, second tour. Là, Éric Ciotti en tête à la présidence des Républicains, notamment avec Bruno Retailleau. Alors, messieurs, quel enjeu est attendu justement parce que cette présidence des Républicains, elle est importante. Et on sait qu'Éric Ciotti a été entaché par son ex-femme sur des affaires. On ne reviendra pas sur le sujet, mais est-ce que Ciotti peut être propulsé à la tête des Républicains? Qu'il y a un enjeu?
Il peut l'être, mais enfin, je rappelle qu'il est candidat
à la primaire.
Est-ce que finalement, Retailleau ou Éric Ciotti, c'est pareil?
C'est bonnet blanc et blanc bonnet, avec un arbitre qui est Marine Le Pen. Enfin, franchement, c'est quoi cette histoire? Les Républicains, aujourd'hui, ce grand parti de droite, fait moins de 5% à la présidentielle. Je vous le répète. Et donc, il faut situer aussi l'enjeu là où il est, entre Ciotti et Retailleau, qui ont fait une campagne de droite extrême pour capter
de droite extrême.
Mais oui, mais bien sûr, pour capter ce
vous
qui
assumez
reste.
Ce propos.
Mais je l'assume parce que l'enjeu derrière pour eux c'est quoi? C'est de dire nous voulons nous allier avec le Rassemblement National. C'est il n'y a pas d'autre enjeu et c'est la mort des Républicains.
C'est terrible ce que vous dites.
C'est la mort des Républicains, que ça soit Retailleau ou que ça soit
Ciotti.
Voilà, c'est un parti d'extrême droite comme il y en a beaucoup qui deviendra un parti d'extrême droite, qui est un parti de droite extrême aujourd'hui, en tout cas par l'expression de ses dirigeants et qui ne va sans doute pas constituer.
Attention, parce
une
que là, on peut vous dire que vous êtes complotiste en disant ça.
Moi, complotiste, non. Je regarde. Rappelez-moi, Madame Pécresse, combien a-t-elle fait à la présidentielle?
Mais ça ne veut pas dire que les Républicains sont morts, comme mais vous venez
si,
de l'annoncer.
Je pense que les Républicains sont morts. Et d'ailleurs, il y en a un qui ne s'y trompe pas, qui a créé le parti Les Républicains, et qui est Nicolas Sarkozy, et qui appelle les Républicains, d'ailleurs, en ce moment même,
à rejoindre Édouard Philippe,
discuter, en tout cas, avec Renaissance. Philippe, lui, il est parti bien avant, il est dans les starting blocks, il a son propre parti pour 2027.
C'était ma question aussi, ma seconde question, mais on va revenir là-dessus. Finalement, est-ce que les sympathisants des Républicains ne vont pas aller rejoindre Édouard Philippe? Mais c'est une question que je vais vous reposer tout à l'heure. Ne bougez pas, restez avec nous dans une poignée de minutes. On marque une courte pause et on se retrouve avec Jimmy Dalidou, Pierre-Henri et enfin Nabil Aitakash.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, vous le savez, c'est avec Pierre-Henri, mais également aussi avec Jimmy Dalidou, et enfin avec Nabil Aitakash. Pas de jingle. Bon, écoutez, on continue. Les informés, dernière ligne droite, jusqu'à 19h30, messieurs, il est 19h20. Éric Ciotti, la bataille s'annonce avec Bruno Retailleau, ce second tour. Que devons-nous retenir concernant donc cette élection? Et puis surtout l'enjeu attendu et finalement la question qu'on se pose, est-ce que les sympathisants ne risquent pas de quitter les Républicains pour aller rejoindre Édouard Philippe?
Je redirai un élément important qui est qu'une formation politique, quelle que soit la formation politique, évidemment il y a des personnages toujours importants évidemment qui donnent un petit peu le là. Mais une formation politique est dirigée par notamment le Congrès et il y a une ligne politique qui est validée par un Congrès, etc. Et c'est ça qui dirige une formation politique.
Exact.
Donc que ce soit Retailleau ou Ciotti, de toute façon, il y aura une ligne politique. Et effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir où est-ce que vont aller les militants. Parce que il va y avoir l'appel d'air du RN.
Je vous arrête deux secondes, je vois le jet privé, le truc de la Discord. Sur BFM TV.
C'est marqué sur BFM TV.
Voilà. J'aime bien. C'était notre débat. Je viens de voir juste le jet privé. Vous disiez que c'était stérile, etc. Jet privé, le débat de la Discord.
C'est stérile.
Sur les Républicains.
Ce que cherche le Républicain. Alors, on se rappellera aussi que les Républicains, c'est un petit peu la bouée de sauvetage de la Macronie. En fait, la Macronie a failli chuter ces derniers temps, et en fait, c'est les Républicains qui l'ont sauvé. Donc, les Républicains, bouée de sauvetage de la Macronie, ont quand même un avenir politique, alors qu'effectivement, ils sont à moins de 5%. Alors, c'est un parti qui est à composition sociale bourgeoise, et donc, ils font moins de 5% dans les sondages, et ils sont quand même sauvés, ils sont quand même financés, organisés, parce que pourquoi? Parce que la Macronie est sauvée grâce à eux. Ensuite,
il y a juste des règles électorales.
Quand même un élément important,
ils ont un groupe parlementaire.
On dirait que
Édouard
Philippe,
chaque parti est financé à hauteur du nombre de parlementaires.
Oui, vas-y, Nabila.
Voilà, chaque groupe politique. Chaque groupe politique est financé à hauteur de par l'argent public et par les sympathisants et leurs cotisations, mais voilà, ils ont un groupe parlementaire, on peut pas dire que c'est peut-être moins de 5% aux élections présidentielles.
Non mais Nabil, tu peux pas nier cette réalité que dans le contexte parlementaire actuel, je te rappellerai qu'il y a eu des mentions de censure ces derniers temps. Je crois que c'était la dernière ou une des dernières. Ce qui a sauvé le gouvernement macroniste, c'est les Républicains. C'est pour ça qu'ils sont maintenus.
Non, c'est faux.
C'est pour ça qu'ils
sont complètement faux. Non, pas du tout.
Il y a toujours une majorité.
Il y a une majorité.
Il répond.
Les Républicains s'abstiennent. Il y a quand même une majorité relative derrière la majorité. Elle est quand même plus nombreuses que le RN et le LFI qui votent ensemble, en effet, sur certaines motions de censure.
Et au passage, vous parlez des Républicains, mais enfin, il faut quand même se calmer. Éric Ciotti a obtenu 28 000 voix devant Bruno Retailleau, 22 000, et Aurélien Pradier, 14 000.
14 000.
Voilà l'état d'un grand parti qui a mis plusieurs présidents de la République, qui a mené à la tête du pays plusieurs présidents de la République. Grosso modo, voilà, Éric Ciotti, 28 000 voix, et il a dû en faire près de 20 000 dans les Alpes-Maritimes, qui est sans fief. Enfin, franchement, voilà de quoi on parle. Et moi, je trouve ça assez tragique. Parce que en réalité, on a des forces politiques qui étaient encore présentes il y a 10 ans, qui aujourd'hui ne représentent plus grand-chose. C'est le cas du Parti Républicain, c'est le cas du Parti Socialiste, évidemment. Et donc, on est toujours dans ce moment de recomposition. Et on ne sait pas forcément où ça va atterrir. Donc c'est ça la grande difficulté. Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de la France et savoir ce qui va se passer pour 2027. Parce que si on continue comme ça, et notamment à proférer un certain nombre d'inepties telles que le fait depuis maintenant une demi-heure sur le plateau, Jimmy...
Vas-y, on reste, écoute.
Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le tapis rouge déroulé pour le Rassemblement national.
Je vais citer quelqu'un qui n'est pas de mon camp politique, mais l'ancien Premier ministre de François Hollande qui disait, hier, je crois, que l'extrême gauche produisait des votes d'extrême droite.
C'est Cazeneuve.
Cazeneuve en parlait ce week-end, et c'est très très vrai, parce qu'à force de raconter, comme tu disais, des inepties, on raconte n'importe quoi aux gens, et cette extrême gauche qui pense défendre le peuple est en train de créer des conditions
de chaos,
en train de renforcer le Rassemblement National.
Deux choses. D'abord, il faut faire attention aux termes qu'on emploie, parce que je vois pas une extrême gauche dans le Parlement, dans le cadre parlementaire, politicienne actuelle. La véritable extrême gauche. La véritable extrême gauche, vous savez où elle est, l'extrême gauche? C'est les gars qui se lèvent à 4h du matin pour distribuer des tracts au Val d'Argenteuil, et ils ont aucun média autour d'eux. C'est ça la véritable extrême gauche. Actuellement, dans le parlementaire, le parlementarisme actuel, les politiciens actuels, ce sont tous des éléments carriéristes, opportunistes, que ce soit à l'extrême gauche, entre guillemets, ou à l'extrême droite, entre guillemets.
Compris.
Et ensuite, je voudrais revenir à ce que dit Pierre-Henri. Ce qui déroule
le
tapis rouge.
Aussi adhérent d'un parti.
Ce qui déroule le
tapis rouge. Non, pas du tout.
Ce qui déroule le tapis rouge en France, au Rassemblement National, Henri. Ce sont ces décennies, ce sont des décennies du bipolarisme politique droite-gauche qui a totalement détruit le paysage politique en France. Je vous rappellerai que ces dernières décennies, aucun parti politique
doit exister, non,
n'a été capable d'apporter des réponses concrètes à la population française qui pourtant a posé des revendications ces dernières décennies. Et c'est des gars comme toi qui défendent le service public, soi-disant un service public qui en fait n'existe plus. C'est ta politique à toi qui a permis la destruction. Qui a permis la destruction.
Parce que vous représentez cette classe.
Du tissu français qui passait par une subjectivité ultra développée, ultra conséquente, monsieur.
D'accord.
Bon. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Rien.
Le président de France Fraternité ne veut rien répondre.
Non.
Messieurs, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de l'Iran. Vous savez? L'Iran. Attendez, sujet important, parce que vous savez quoi? Il y a eu une annonce ce week-end. L'annonce de quoi? De l'abolition, justement, de la police des mœurs. Vous savez, celle qui arrête, voilée, pas voilée, etc.
C'est le procureur général qui a annoncé ça. Et
Attendez, il y a eu des débats. Ça a provoqué. Non, si, il y a eu cette déclaration du procureur général.
Mais il y a un gros débat.
Il y a eu quand même.
Au sein de la classe dirigeante iranienne.
Absolument, il y a eu des débats. Est-ce que ça va changer quelque chose? Et puis ce débat, voilà. Je fais un tour de table. C'est une question que beaucoup s'opposent. Nabil Etakash.
Non, ce qui est très intéressant, c'est de voir en effet que la société iranienne pousse, fait bouger les lignes, et c'est important. Il faut leur laisser le temps de faire bouger les lignes sans juger de l'extérieur.
Mais qui a fait bouger les lignes? C'est les manifestants.
Oui, c'est les manifestants, bien sûr. Mais voilà, il y a des sujets qui méritent d'être, comment dire, de se battre pour des valeurs, pour des principes. Et la jeunesse iranienne le prouve actuellement. Toute la société iranienne. Pardon.
Oui, alors attention à pas confondre, parce que même s'il y a abolition d'une police des mœurs, ça ne veut pas dire que les mœurs ont été abolies dans la masse iranienne. Ça, c'est la première chose. Et de par le contexte, le fait que le
c'est quand même un signal fort.
L'islam a été, on va dire, l'islam est très intégré dans le contexte politique là-bas. Je crois que la laïcité, évidemment, est un élément important. Et il faudrait que les mœurs de la masse acceptent la notion de laïcité. Donc ça reste à définir, en fait.
Pierre-Henri.
Alors, d'abord, moi, je voudrais rendre hommage à la jeunesse iranienne et aux femmes iraniennes avec ce magnifique mouvement Femmes, Vie, Liberté, où mépris de leur vie. Des milliers de personnes sont descendues dans les villes iraniennes. Je rappelle quand même qu'il y a près de 500 morts. Voilà. Après, la répression du pouvoir est terrible. Simplement, il est divisé. Et on peut espérer que grâce à la division, en réalité, une phase plus souple s'amorce.
Merci Pierre-Henri, le président de France Fraternité. Merci à Jimmy Delidou, le représentant merci CGT, mais également auteur. Merci à Nabil Etakash, le représentant de Renaissance du 93. Merci au réalisateur qui a supporté ce débat très vif, effectivement, cet échange. Anthony et aux auditeurs. Time Sport s'empare des micros de Beurre FM pour la Coupe du Monde à vivre ici même en direct. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.